L'empire sur soi-même, la modération est leur dernier motif. Je ne trouve pas moins de 6 méthodes profondément différentes pour combattre la violence d'un instinct. Premièrement, on peut se dérober au motif de satisfaire un instinct, affaiblir et dessécher cet instinct en s'abstenant de le satisfaire pendant des périodes de plus en plus longues. Deuxièmement, on peut se faire une loi d'un ordre sévère et régulier dans l'assouvissement de ses appétits. On les soumet ainsi à une règle, on enferme leur flux et leur reflux dans des limites stables pour gagner les intervalles où ils ne gênent plus. En partant de là, on pourra peut-être passer à la première méthode. Troisièmement, on peut s'abandonner avec intention à la satisfaction d'un instinct sauvage et effréné, jusqu'à en avoir le dégoût pour obtenir, par ce dégoût, une puissance sur l'instinct. En admettant toutefois que l'on ne fasse pas comme le cavalier qui, voulant errater son cheval, se casse le cou, ce qui est malheureusement la règle dans de pareilles tentatives. Quatrièmement, il existe une pratique intellectuelle qui consiste à associer à l'idée de satisfaction une pensée pénible, et cela avec tant d'intensité qu'avec un peu d'habitude, l'idée de satisfaction devient chaque fois pénible elle aussi. Par exemple, lorsque le chrétien s'habitue à songer pendant la jouissance sexuelle à la présence et au ricanement du diable, ou à l'enfer éternel pour un crime par vengeance, ou bien encore au mépris qu'il encourrait aux yeux des hommes qu'il vénère le plus s'il commettait un vol. De même, quelqu'un peut réprimer un violent désir de suicide qui lui est venu 100 fois lorsqu'il songe à la désolation de ses parents et de ses amis et aux reproches qu'ils se feront. Et c'est ainsi qu'il arrive à se maintenir dans la vie. Car dès lors, ces représentations se succèdent dans son esprit comme la cause et l'effet. Il faut encore mentionner ici la fierté de l'homme qui se révolte, comme firent par exemple Byron et Napoléon, qui ressentirent comme une offense la prépondérance d'une passion sur la tenue et la règle générale de la raison. De là provient alors l'habitude et la joie de tyranniser l'instinct et de le broyer en quelque sorte. « Je ne veux pas être l'esclave d'un appétit quelconque !» écrivait Byron dans son journal. Cinquièmement, on entreprend une dislocation de ses forces accumulées en se contraignant à un travail quelconque, difficile et fatigant, ou bien en se soumettant avec attention à des attraits et des plaisirs nouveaux, afin de diriger ainsi, dans des voies nouvelles, les pensées et le jeu des forces physiques. Il en est de même lorsque l'on favorise temporairement un autre instinct en lui donnant de nombreuses occasions de se satisfaire, pour le rendre dispensateur de cette force que dominerait, dans l'autre cas, l'instinct qui apporte une par sa violence et que l'on veut réfréner. Tel autre sera peut-être aussi contenir la passion qui voudrait agir en maître en accordant à tous les autres instincts qu'il connaît un encouragement et une licence momentanée pour qu'il dévore la nourriture que le tyran voudrait accaparer. Et enfin, sixièmement, celui qui supporte et trouve raisonnable d'affaiblir et de déprimer toute son organisation physique et psychique atteint naturellement de même le but d'affaiblir un seul instinct violent. Comme fait par exemple celui qui affame sa sensualité et qui détruit, il est vrai en même temps, sa vigueur, et souvent aussi sa raison, comme fait l'ascète. Donc, éviter les occasions, implanter la règle dans l'instinct, créer la satiété et le dégoût de l'instinct, amener l'occasion d'une idée martyrisante, comme celle de la honte, des suites néfastes ou de la fierté offensée, ensuite, la dislocation des forces, et enfin, l'affaiblissement et l'épuisement général. Ce sont là les 6 méthodes, mais la volonté de combattre la violence d'un instinct est en dehors de notre puissance, tout aussi bien que la méthode sur laquelle on tombe et le succès que l'on peut avoir dans l'application de cette méthode. Dans tous les process, notre intellect n'est au contraire qu'instrument aveugle d'un autre instinct, qui est le rival de l'instinct dont la violence nous tourmente, que ce soit le besoin de repos ou la crainte de la honte et d'autres suites néfastes, ou bien encore l'amour. Donc, tandis que nous croyons nous plaindre de la violence d'un instinct, c'est au fond un instinct qui se plaint d'un autre instinct. Ce qui veut dire que la perception de la souffrance que nous cause une telle violence a pour condition un autre instinct tout aussi violent, ou plus violent encore, et qu'une lutte se prépare où notre intellect est forcé de prendre parti.